Bienvenue sur Ménopausée, le podcast qui questionne la ménopause à travers des portraits de femmes. Nos invités y racontent, sans tabou, l'impact de la ménopause sur la vie des femmes ou comment elles ont profité de ces années pour réinventer leur quotidien. Si vous traversez la ménopause, n'hésitez pas à télécharger notre application mobile de santé Omena, dédiée au sujet. Et maintenant, place au podcast. Annie Cutaya est réalisatrice de documentaires sur la chanteuse Patti Smith, sur la chorégraphe Marion Motin, et a récemment réalisé un documentaire sur un sujet un peu différent, un peu original, dont on parle beaucoup ici, qui est la ménopause, qui est passé sur la chaîne Teva et disponible sur le replay M6. Son documentaire a le joli nom Ménopositive, nom que j'aime beaucoup, tout comme le documentaire que j'ai vu récemment. Bienvenue sur Ménopausée, Anne.
Merci.
Première question, pourquoi t'as décidé ou accepté de venir parler sur Ménopausée ?
Ben, parce que vous m'avez invitée et que j'étais curieuse de vous rencontrer, de découvrir votre travail. Je trouve ça assez chouette que des jeunes personnes s'emparent de ce sujet, puisque on m'a, moi, dit, ben, quand j'ai dit que je faisais un film sur la ménopause, mais tu n'es probablement pas concernée, alors que si, nous sommes tous concernés.
C'est vrai. Et pour le détail, donc moi qui interview Anne, j'ai 28 ans. 27 ? Je ne sais plus. J'ai 27 ans, je crois. Comment est-ce que ça s'est fait, ce documentaire d'ailleurs ? Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire un documentaire sur la ménopause ?
Bah, ça a été, c'est Eva qui a proposé le sujet et ça m'a tout de suite séduite. Ils ont lancé le sujet sans poser d'exigences éditoriales. La forme, c'est moi qui l'ai trouvée, mais voilà, je pense que je ne pense pas que je serais allée sur ce sujet sans la proposition de Eva. C'était chouette de... Ça m'a tout de suite parlé, en fait. J'ai tout de suite dit, ça m'intéresse.
Et normalement, je commence le podcast avec une autre question que je vais poser maintenant avec un peu de retard. Est-ce que tu es ménopausée ?
Je suis en cours.
Et est-ce que tu as rencontré la ménopause pour la première fois avec le documentaire ou tu avais déjà eu des symptômes ?
Alors, non, j'avais déjà eu des symptômes. Les premiers symptômes que j'ai eus, mais alors ils n'ont pas été clairement identifiés comme étant des symptômes de préménopause ou comme de périménopause, puisque autour de la quarantaine, on parlera plutôt de périménopause. On m'a parlé de dérèglements hormonaux. Voilà, c'était un espèce de terme un peu fourre-tout et auquel, bien sûr, personne n'a de conseil pour pallier au désagrément, quoi.
Oui, t'as pas eu... beaucoup d'aide de la part de tes médecins ?
Non, pas vraiment, même pas du tout. Après, étant grande adepte de médecine dite douce ou traditionnelle, j'ai trouvé des soutiens, on va dire, là-dedans. Ça m'a vachement apaisée. Mm-hmm. Mais non, en tout cas dans la médecine traditionnelle ou allopathique, non.
Est-ce que c'était un début du documentaire ? De répondre aux questions des femmes comme toi qui avaient leurs premiers symptômes ?
Non. Non, je pense que vraiment le début de la réflexion, et c'est le début du film, c'est de se dire pourquoi j'ai été briefée sur tout et pas sur ça. C'est vraiment le premier truc. C'est pour ça que le sujet, quand il m'a été proposé, je me suis tout de suite dit s'il y a un truc à faire, puisque je voyais bien qu'il n'y avait rien. Et qu'il n'y avait rien, et que malgré tout, je voyais quand même dans le paysage jaillir sur les réseaux sociaux, auprès de certaines autrices, comme ça, une parole qui était en train de naître. Et en même temps, comment ça naît dans le paysage médiatique, tu vois, de manière un petit peu éparse. Et comment, au sein des familles, des communautés de femmes, pourquoi on n'en parle pas ? Ou peu ?
Tu dis qu'autour de toi, on parlait de tout. Ça veut dire quoi, tout ?
Bah, tout, c'est tout. Tout, la sexualité. Moi, je viens d'une famille... ma mère a 5 sœurs. Elles ont toutes été élevées par ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'ai moi-même une sœur. Mon père était très absent de la maison, pas pour obligation professionnelle. Donc j'ai vraiment grandi dans un cocon très féminin. Donc avec ma sœur, ma mère, on allait passer tous nos week-ends chez mes tantes qui avaient des cousines. Enfin, il y avait les cousines, c'était tout ça, quoi. Et donc, on a parlé d'absolument tout. Moi, ma mère, à 13 ans, elle me mettait des préservatifs dans mon cartable en me disant « sait-on jamais ?» Oui, c'est très tôt. Elle m'a mis, c'est elle qui m'a posé mon premier tampon parce que la première fois que j'ai eu mes règles, le lendemain, j'avais une sortie de planche à voile. Et elle m'a dit, si tu veux aller à la sortie planche à voile, tu iras à la sortie planche à voile.
Merci maman.
Moi, on a parlé de sexualité, de maternité. Comme je viens d'une grande famille, eh bien, il y a des homos, des hétéros, il y a des enfants adoptés. Enfin, on a parlé vraiment de tout ce qui pouvait constituer la vie. Et sur ça, on n'en a jamais parlé. Et quand j'ai commencé à réfléchir au film, j'ai bien vu que, en me remémorant des épisodes de vie de ma mère, de mes tantes, j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui avait été passé sous silence.
Tu leur as parlé dans le cadre du documentaire. Qu'est-ce qu'elles ont dit de la ménopause, du fait qu'elles n'en avaient pas parlé avant ?
Bah, le truc qui revient très souvent, c'est pourquoi en parler. C'est-à-dire que c'est un non-sujet. Il n'y a pas de sujet. Mmh. Et c'est d'autant plus étonnant de se dire qu'il n'y a pas de sujet quand, justement, tout est un sujet.
C'est vrai.
Sauf ça.
C'était quoi l'objectif du documentaire ?
Je sais pas s'il y avait un objectif. Je sais pas. Je pense pas qu'il y avait d'objectif. L'idée, c'était vraiment d'essayer de construire une réflexion sur ça. Peut-être d'amorcer un début de récit qui pourrait soulager celles qui sont en train de la traverser et préparer le terrain pour celles qui arrivent.
Dans le documentaire, tu fais un moment intervenir une gynécologue, mais tu parles pas autrement beaucoup du côté très médical de la ménopause. Pourquoi avoir fait comme ça ?
Déjà, comme j'avais écrit le film en partant de moi, c'est quand même resté une espèce de trame. Après, de toute façon, il fallait ouvrir le propos, mais j'avais pas envie de rentrer dans un récit trop scientifique. J'avais pas envie de devoir construire une thèse, une antithèse, une synthèse autour de tout ce que pouvaient être les traitements. Je savais que de toute façon, le film que je voulais faire, j'avais envie d'un film choral, j'avais envie d'un film qui soit humain et pas médical, en fait. Donc ça a été dès le départ un terrain d'entente avec Teva qui a diffusé le film, donc ils sont coproducteurs. Je voulais faire un film positif, joyeux et humain.
Dans le film, on voit beaucoup de tes copines à plein de moments différents. Est-ce qu'elles ont directement accepté ? Est-ce qu'il y en a eu que tu as dû convaincre d'être dans le documentaire ?
Non, elles ont toutes accepté, tout de suite. Après, quand on était vraiment sur le truc, je sentais qu'elles avaient un peu peur. Mmh. Mais elles m'ont fait grandement confiance. Et puis, c'est vraiment mes amies, c'est mes piliers. C'est des personnes très importantes dans ma vie. On en a beaucoup parlé. Une grande confiance. Et je les remercie beaucoup pour cette confiance parce qu'elles sont super.
Merci aux copines de Anne. Vous parlez, je crois même qu'on assiste à un de ces dîners, les dîners des mères indignes, que tu organises avec tes copines depuis plusieurs années.
Ouais.
Est-ce que vous aviez parlé de ménopause dans ces dîners ?
Jamais.
Avant le documentaire ?
Non, jamais. Jamais. Et finalement, c'était assez marrant parce que quand on a commencé à réfléchir, on a fait 2-3 moments, alors c'est totalement informel, hein, bien sûr, pour préparer un peu ces séquences-là. Finalement, elles m'ont assez peu parlé de leurs symptômes. Et c'est vraiment au moment du tournage où tout a jailli comme ça Et c'était super de découvrir en même temps. Enfin, ça s'est vraiment fait comme un de nos dîners où finalement on échange et on se confie les unes aux autres et où on est là en soutien et à discuter. C'était vraiment très. Enfin, rien n'était écrit, rien n'avait été préparé, quoi.
J'étais dans le train au moment où je regardais ton documentaire, mais j'avais l'impression d'être avec vous, en effet.
C'est ce qu'on me dit souvent, ouais.
Est-ce qu'il y a eu des sujets qui étaient compliqués à traiter dans le documentaire ?
Oui, la question de l'intimité, de la sexualité, ça n'a pas été simple. Et je remercie Valérie qui l'a abordé. Je remercie Lio aussi qui l'a abordé. Et Élise Thiébaud, bien sûr. Pour sa punchline mythique dans le film.
C'est quoi la punchline ?
La punchline, c'est qu'à un certain âge, la sexualité, il faut un peu la déconstruire parce que sinon, ça va être la rencontre de la demi-molle et de la demi-sèche, le truc le plus horrible qui puisse arriver. Et ça, vraiment, ça nous a fait beaucoup rire au tournage.
C'est une bonne punchline.
C'est une bonne punchline. Non, mais ouais, la question de la sexualité, de l'intimité, comme ça, je pense que ça, c'est compliqué. Et puis, moi, j'avoue que j'ai été aussi un peu sur des pincettes pour y aller. Finalement, on l'aborde de manière assez, assez jolie, puis c'est venu naturellement. Je crois que c'est quand même un des grands... Quand on fait du documentaire, moi, je suis pas journaliste, j'ai pas vocation à sortir les vers du nez à quelqu'un dans un timing donné. Donc, on tourne et puis on essaye d'amener les choses. Mais c'est vrai que je laisse beaucoup courir. J'essaye de souvent enfin en tout cas dans ce film-là, ce que j'ai essayé de faire beaucoup, c'est de mettre en place des systèmes qui sont propices à l'échange, à la parole, qui soient pas forcément de l'interview, parce que je trouvais que c'était quand même chouette de recréer justement ces cercles de femmes, ces moments où en fait on échange entre nous et c'est là où ça se passe plutôt que d'être face à une caméra et voilà. Donc il y a à un moment donné une séance photo et là il y a des femmes qui échangent, et à ce moment-là, la question de la sexualité, de comment on se réapproprie son corps et sa sexualité à ce moment de la vie. Et c'était super chouette, parce qu'en fait, ça arrivait naturellement. Mais c'est, moi, en tout cas, je me disais, mince, comment je vais arriver à amener ce truc? Puis même dans les confidences que j'avais, parce qu'il y a tous ces moments où j'ai filmé ma mère, mais je l'ai filmé moi. Je sentais bien que dans nos échanges un peu préparatoires, elle m'avait dit, bon, ça, je préfère pas trop en parler. Tu vois, bon, je comprends. Et c'est, au fait, c'est toujours trouver la juste, c'est même pas la juste distance, mais être très respectueux de ce que l'autre va pouvoir te livrer, parce que finalement, un film, c'est n'est construit que sur la parole des gens qui y participent, et ça doit être très précieux. Et il ne faut pas en abuser. Voilà, il ne faut pas être trop voyeur.
Bon, je ne pense pas que tu l'aies trop été.
Non, j'ai essayé d'être... En tout cas, je n'ai poussé personne à dire des choses qu'il n'avait pas envie de dire.
J'ai toujours l'impression que la ménopause, c'est un sujet dont on ne se dit pas forcément qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, dès qu'on commence à en parler, on se rend compte à quel point c'est un sujet large et riche pour beaucoup de femmes.
Mais je crois que, en fait, c'est le cas de tous les sujets. Tu vois, pour mon premier film sur la chorégraphe Marion Motin, il y a quand même des gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais 52 minutes sur une chorégraphe, c'est hyper long. » Bah, en fait, le film fait son rôle de film, quoi. Je crois que c'est ça, raconter des histoires, c'est ça, s'emparer des sujets. En fait, c'est inépuisable. Après, c'est la forme qui peut être pénible. Voilà. Mais je pense qu'en fait, tous les sujets sont bons à s'approprier ou à traiter, quoi.
Tu disais que ça avait été important pour toi de faire un documentaire sur la ménopause inclusif. Comment est-ce que tu t'y es pris ?
Bah, en fait, quand j'ai commencé à écrire, donc très vite, il y avait ma mère, il y avait mes copines. Quand j'ai commencé à faire un peu le casting people, en fait, je me suis dit, il faut pas que ce soit un film de femmes blanches. Ça ne peut pas être ça. Et il faut absolument que ce soit inclusif. Et donc, j'ai la chance d'être très amie avec Océan, donc je lui ai demandé s'il était partant pour participer au film. Tout de suite, il m'a dit oui. Et Marie-Sona, pareil, je lui ai dit, bon, bah, est-ce que tu veux bien intervenir dans le film. Il se trouve qu'elle était qu'elle était très concernée par le sujet, mais c'est vrai que c'était important pour moi, Et j'aurais aimé que ce soit encore davantage, que ce soit pas seulement un sujet de femmes blanches. Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la perspective qu'a apportée Océan sur le sujet ?
Je sais qu'Océan, il aurait aimé que je sois plus radicale et militante dans ce que j'ai gardé. Après, j'avais fait le choix déjà dans mon écriture de justement de pas faire un sujet trop médicalisé. Donc, du coup, non, aussi, ça impliquait de ne pas avoir trop de contenu ou d'avis sur les traitements hormonaux. Il se trouve que le parcours de transition d'Océan, il est hormoné. Donc du coup, voilà, c'est vrai que j'ai mis un peu de côté cette partie-là. Mais lui, il me disait, mais il faudrait que toutes les femmes prennent de la testostérone. Ça réglerait bien des problèmes. Parce que les médecins sont là, non, mais c'est jamais de la vie, c'est hyper dangereux. Bon, voilà, on ne saura jamais le vrai du faux, mais je pense que... Élise Thiébault m'a confié qu'elle avait testé le testostérone en microdosing à des fins thérapeutiques et que c'était chouette.
J'en parlerai. On a une gynécologue qui vient bientôt qui s'appelle Brigitte Letombe. Je lui poserai des questions sur la testostérone. Voilà. J'ai beaucoup parlé de traitement hormonal avec elle, mais pas beaucoup de testostérone. Donc, ça sera l'occasion.
Ouais.
À un moment, il y a une très jolie conversation avec Lio, donc la chanteuse qu'on ne présente plus. Comment ça s'est passé ? Comment tu l'as contactée ? Quelles questions tu lui as posées ?
Et bah, Lio, je l'ai contacté parce que j'avais entendu un an avant à peu près son interview dans l'émission Boomerang d'Augustin Trapenard sur France Inter, où elle disait qu'elle avait arrêté d'avoir des rapports sexuels avec des hommes à 50 ans et qu'elle refusait en fait de que ce soit une monnaie de relationner avec des hommes, que son corps soit la monnaie de relationner avec des hommes. Et je lui ai trouvé ça vraiment incroyable. Et c'est vrai que, que la sexualité soit, pour une femme de cet âge-là, en tout cas, aussi facilement mise... Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'elle dit... Elle m'a confié qu'elle n'avait pas du tout dit ça pour étaler son intimité, mais parce que, justement, peut-être que ça pouvait résonner... dans d'autres parcours et qu'elle finalement elle utilisait son corps et sa personne comme une espèce de terrain d'expérimentation et donc ça m'avait vraiment fort impactée. Et puis quand j'ai commencé à faire mon casting, il se trouve qu'on a tourné sur un temps très resserré et que c'était la période un peu de Cannes et tout ça, donc j'ai eu beaucoup d'artistes qui ne pouvaient pas participer au film malgré leur intérêt pour le sujet. Et Lio, ça s'est fait très naturellement. Elle m'a tout de suite dit oui. Et puis bon, bah, j'étais très, très, très contente et très honorée qu'elle accepte de venir échanger avec moi. C'était super.
Je laisse les personnes qui nous écoutent courir, regarder Ménopositive et regarder notamment ces belles séquences, comme toutes les autres. D'ailleurs, parce que je viens de prononcer le nom du documentaire, comment... t'as choisi ce nom, Ménopositive ?
Alors, le titre premier, c'était « Nous ne sommes pas des yaourts ». Bon, c'était un petit peu crypté. Donc, il a fallu trouver un titre premier degré, j'ai envie de dire, parce que je vais dire plus expressif, mais c'est premier degré. Ménopositive, c'est ma productrice qui l'a soumis pour la première fois. Au début, j'étais là, ça fait juvamine. C'est pas ouf. Et puis, j'ai cherché. Et puis, j'ai eu fini le montage. Et puis, c'était la fin. Et en fait, je ne trouvais rien. Donc, j'ai gardé Ménopositive.
On a eu du mal à trouver le nom pour le podcast. On l'a appelé Ménoposé, finalement.
Ouais, c'est dur.
Ouais, parce que ça plaisait à nos utilisatrices donc de notre application mobile. Mais c'est pas évident, parce que soit on part sur un jeu de mots, soit on part sur une blague... Mais avec la blague comme la tienne,
non.
Donc on perd un peu le sujet ménopause. Est-ce qu'il y avait d'autres idées de nom ?
Bah non, je te dis, c'était Nous ne sommes pas des yaourts et Ménopositive. Et puis après, il y a eu une recherche, mais non, ça n'a jamais abouti.
Ouais, j'aime bien Ménopositive. Je trouve que ça représente assez bien le contenu du documentaire.
Bah en fait, oui, c'est une fois que tu as vu le film, tu te dis, bah oui, c'est ça. Bon, voilà, c'est ça.
Tu penses que les personnes qui regardent ton documentaire en gardent quoi ?
Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on m'a beaucoup écrit après ce film. J'ai beaucoup été sollicitée. Bah, la preuve en est, c'est que vous m'avez appelée pour venir vous rencontrer. Et c'est vrai que Je sais pas, mais j'ai l'impression que en fait il y a beaucoup de gens qui se sont sentis moins seuls, à qui ça a fait du bien. Et c'est super quand tu fais des films, parce que le but d'un film c'est quand même qu'il soit vu, et s'il est vu et qu'il est apprécié, c'est encore mieux. Donc moi j'étais contente. Et puis je fais aussi des films parce que j'aime bien les gens, donc j'étais contente. Que ça résonne quoi.
J'ai regardé le documentaire avant le reste de l'équipe Omena et je leur ai dit directement voilà mes codes pour aller le regarder sur le site M6, il faut absolument que vous le voyez. Parce que c'est rare un documentaire d'une heure, il dure une heure, c'est ça?
Oui.
Un documentaire d'une heure sur la ménopause où on entend plein de femmes parler de ménopause. Est-ce que tu penses qu'on parle assez de ménopause?
Ah bah non, je pense que là c'est un sujet dont on est en train de s'emparer, mais j'espère que le pinkwashing va pas passer par là et qu'il va pas y avoir trop de récupération, mais en tout cas je pense qu'on de toute façon tous ces sujets là qui touchent à la santé des femmes, en tout cas à la santé des corps sexisés, enfin je pense que c'est vraiment primordial et qu'on se rende compte quand même que le modèle masculin est quand même l'étalon médical encore aujourd'hui en 2024, et que c'est quand même assez dramatique que les femmes sont moins bien prises en charge, que les femmes racisées sont encore moins bien prises en charge, et que ça c'est quand même inadmissible. On va même pas parler des personnes transgenres qui eux elles n'ont vraiment accès à un accès à la médecine très parcellaire, et ça, je trouve que c'est vraiment c'est des sujets dont on doit s'emparer. En plus, je pense que l'effondrement du système de santé impacte directement cet état de fait. Donc c'est vraiment... je pense qu'on ne parle pas assez de ménopause comme on ne parle pas de plein d'autres sujets de manière assez concernée. Ouais. Ça, c'est sûr.
Est-ce que tu peux définir le terme « pinkwashing » ?
Le pinkwashing, c'est comme le greenwashing, c'est comme comment des grands médias, des grandes sociétés vont s'emparer des luttes écologistes pour le greenwashing, féministes pour le pinkwashing. Réappropriation par des personnes non concernées.
Et ça, est-ce que ça veut dire que toute parole sur la ménopause n'est pas bonne à prendre, quelque part?
Non, je pense que pour l'instant, on n'en est peut-être pas là, mais... En tout cas, je pense quand même que c'est toujours... Je pense qu'on ne va pas commencer à parler de ménopause à tout va, bien que peut-être dans pas longtemps. Mais en tout cas, je pense que pour les personnes qui s'intéressent à un sujet, il faut quand même juste faire un tout petit peu gaffe, un tout petit peu attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde. Ou peut-être pas prendre tout au premier degré.
Tout à fait. Ne prenez pas ce podcast au premier degré. Est-ce qu'il y aura une suite au documentaire Ménopositive ?
Non, il y aura pas de suite. Non, il y aura pas de suite. Je continue à travailler sur des sujets qui m'importent. En revanche, peut-être la suite pour moi, c'est que jusqu'à présent, j'avais fait que du portrait, et que là, c'est la première fois que je m'attaquais à un sujet, on va dire, un petit peu plus société. Pour moi personnellement, en tant que réalisatrice, ça m'a peut-être ouvert une nouvelle porte de sujets dont j'avais envie de m'emparer, ou peut-être où je me sentais un petit peu plus capable de le faire. Donc il va y avoir une suite, en tout cas à cette forme d'écriture plus de sujets plus sociétaux, mais non, il y aura pas de suite à Ménopositive. Il y aura pas la 2.
Et si il y avait eu un tome 2, je sais, avec des si on met Paris en bouteille, mais tu mettrais quoi dedans? Tu aurais mis quoi dedans?
Un truc que j'ai pas abordé parce que c'était pas le ton du film, mais peut-être un côté plus politique. On parle d'un congé menstruel. On s'est vraiment emparé du sujet, de la question des règles, en tout cas. Et dans la santé, mais aussi de manière plus étatique et sociétale. Et c'est vrai que je pense que j'aurais bien aimé plus à développer ce truc-là. C'est-à-dire que il se trouve que dans mon film, la plupart des femmes sont OK avec la ménopause et le fait de vieillir, même si elles ont traversé des moments difficiles. C'est pas le cas pour toutes les femmes. Il y a des femmes qui se trouvent en grande difficulté et c'est très compliqué. Il y a des femmes qui sont en arrêt de travail pendant des mois, voire des années. Voilà, ça j'aurais aimé aborder. Qu'est-ce qu'on peut imaginer faire à ce niveau-là, quoi. Ouais, je pense qu'il est temps que les politiques s'en emparent aussi.
Ouais, sujet politique, si jamais il y en a qui nous écoutent, pourquoi on ne parle pas de ménopause dans les programmes scolaires ? Je pense que tu devrais faire ce tome 2, c'est mon avis.
Je vais réfléchir.
Est-ce que tu as eu des retours sur le documentaire ?
Ouais, plein. Plein. C'était un peu fou d'ailleurs, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai eu beaucoup de presse, j'ai eu beaucoup de témoignages de spectatrices qui m'ont écrit. Non, c'était super, ouais.
Est-ce qu'il y a un retour qui t'a beaucoup touchée, que tu veux nous partager ?
Bah, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est pas un, mais en tout cas, ce qui revient souvent, c'est ce sentiment qu'ont eu les femmes en regardant le film de pas être seules, de plus être seules. Et ça, c'est ce qui m'avait le plus impacté quand j'ai commencé à tourner, ce sentiment de solitude quand je recueillais les premiers témoignages. Et là, vraiment de sentir, voilà, qu'elles se sentaient accompagnées ou en tout cas moins isolées.
Est-ce que tu as un conseil pour les femmes qui traversent la ménopause, qui nous écoutent éventuellement ?
Ah bah, le conseil que dit Lio dans le film, faut parler. En fait, on se sent déjà moins seul. Une fois que c'est plus dedans, c'est donné à l'univers. Et encore mieux si ça a une oreille bienveillante. Mais ouais, parler. En fait, ne pas mettre nos corps et nos vécus dans la culpabilité, mais juste se dire qu'en fait, tout est un chemin et que le chemin partagé est bien plus simple à traverser.
Merci beaucoup, Anne.
Avec plaisir.